C'est à vous, Fabienne Synthèse.
Allez, la pendule, c'est surfait. Merci beaucoup, Alex et les amis. À demain. Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce lundi 24 janvier avec le journal de Sébastien Eugénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir par une expertise.
Qui confirme la responsabilité directe des forces de l'ordre dans l'affaire Cédric Chouviat, ce livreur mort il y a 2 ans dans les rues de Paris suite à un contrôle de police. C'est bien l'action des policiers et leur technique d'interpellation qui a provoqué le décès par asphyxie. Explication complète dans un instant. Le Burkina Faso en pleine tourmente depuis hier après une mutinerie de soldats de l'armée régulière. À l'origine de ce coup de force militaire, l'état déliquescent de l'armée burkinabé. À suivre aussi Emmanuel Macron qui dément avoir dit qu'il souhaitait augmenter les droits d'inscription à l'université. La mise en place du pass vaccinal en Alsace qui se fait sans encombre. La bonne année 2022 en perspective pour l'emploi des cadres et puis l'aide de la France qui commence à arriver aux îles Tonga.
À 18h15, un jour dans le monde en Italie, ce soir qui a commencé son processus très particulier d'élection de son président de la République, un président au rôle honorifique, dit-on. Il est bien plus que ça et le choix des grands électeurs peut faire tanguer la politique italienne. On y viendra avec le premier invité ce soir. Et puis 19h20, le téléphone sonne et vos préoccupations à vous, à 76 jours du premier tour des élections présidentielles. Un sondage Ipsos Soprasteria en partenariat avec France Inter montre bien combien la première préoccupation c'est le pouvoir d'achat et comment les candidats peuvent y répondre. Venez nous dire quels sont vos enjeux, vos préoccupations, vos thèmes, ce que vous voulez voir aborder, ce que vous ne voyez pas ou pas assez. Ça se passe bien sûr au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il avait été plaqué au sol avec son casque de moto sur la tête.
C'était il y a un peu plus de 2 ans, le 3 février 2020. L'arrestation très musclée d'un livreur de 42 ans à proximité de la Tour Eiffel à Paris, Cédric Chouviat, allait mourir 3 jours plus tard à l'hôpital. Cela fait des années que la famille se bat pour faire reconnaître la responsabilité et la volonté homicide des policiers, mis en examen à ce stade pour homicide involontaire. L'expertise médicale de synthèse qui rassemble toutes les précédente vient d'être jointe au dossier. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Et conclusion, ce sont bien les gestes employés par les forces de l'ordre qui sont en cause et pas les antécédents cardiovasculaires de la victime.
Oui, les 5 experts mandatés par le juge d'instruction estiment que la cause du décès de Cédric Chouviat provient bien d'une association simultanée de plusieurs facteurs en lien direct avec les gestes des policiers effectués durant l'interpellation et qui ont, je cite, abouti à une privation très rapide d'oxygène au cerveau. L'expertise que nous avons pu consulter précise clairement que le malaise débute une fois plaqué au sol avec le bras d'un policier qui continue d'effectuer une clé de cou et ce alors que la victime, on le sait, porte encore son casque et qui aurait engendré un écrasement mécanique de la trachée et de la carotide. Une deuxième explication est avancée. Un policier pourrait avoir tiré sur la jugulaire du casque en voulant maîtriser Cédric Chouviat. L'expertise met enfin en évidence les 2 minutes 45 secondes entre le malaise et le début d'un massage cardiaque par les agents de la préfecture de police de Paris.
Et qu'est-ce que cette expertise, Emmanuel, peut changer dans le dossier ?
Eh bien, pour la famille, cette expertise ne ferait que confirmer s'il en était qu'il s'agit là d'une bavure policière avec un étranglement arrière très dangereux et d'ailleurs aujourd'hui interdit. Elle réclame donc une requalification des faits en violence volontaire ayant entraîné la mort, ce qui est passible de la cour d'assises. Les avocats de la défense, eux, n'ont souhaité faire aucun commentaire sur un acte d'une instruction en cours.
Emmanuel Leclerc du service police-justice de France Inter.
Et direction le Burkina Faso où règne ce soir la plus grande confusion.
Le Burkina qui fait l'objet depuis hier d'une tentative de coup d'état militaire condamnée par les pays d'Afrique de l'Ouest rassemblés au sein de la CDAO. Les informations sont contradictoires autour du sort réservé au président Gaboré, détenu par les mutins selon certaines sources sécuritaires, exfiltré par sa garde selon le gouvernement et qui sur Twitter appelle ceux qui ont pris les armes à les déposer. Le Burkina Faso en pleine crise sécuritaire depuis des mois avec des attaques récurrentes des djihadistes du Sahel contre l'armée régulière. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
L'armée burkinabé Burkinabé très fragilisée donc, et c'est ce qui explique en partie les événements en cours.
Oui, des années que la colère monte dans les casernes burkinabé, régulièrement secouées par des départs de mutinerie, une armée vraiment traumatisée par ces attaques récurrentes, donc de ces positions par des colonnes djihadistes. La plus grave a fait 57 morts, dont 53 gendarmes à Inata, dans le nord du pays, c'était mi-novembre, et pas une semaine ou presque sans que ne soient attaquées des garnisons lointaines, souvent isolées, mal équipées, tenues loin des chaînes de commandement, comme ce fut le cas à Koutougou en 2019, avec des soldats encerclés, brûlés vifs dans les baraquements, impuissants à obtenir du renfort. En tout, 478 militaires ont été tués depuis 2015. Quelques jours avant cette attaque d'Inata dont je vous parlais, des officiers avaient alerté sur la situation dans laquelle se trouvaient les soldats qui n'avaient pas été ravitaillés, qui manquaient de rations alimentaires, primes non versées, matériel non renouvelé. Les dysfonctionnements profonds, la corruption au sein de l'armée nourrissaient la colère contre le président Kabore, qui était accusé de ne pas être capable de mettre fin à l'insécurité. Début janvier, plusieurs militaires avaient été arrêtés, soupçonnés déjà de préparer un coup d'État. Un coup d'État que tous les Burkinabés, ou presque, considéraient comme inéluctable, tant la situation est éruptive.
Claude Guibal, et puis en attendant que la situation s'éclaircisse, l'Union européenne appelle ce soir à la libération immédiate du président Kabore. Nouvelle montée de tension autour de l'Ukraine. L'OTAN a placé aujourd'hui ses forces en état d'alerte et décidé d'envoyer des renforts en Europe de l'Est. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont de leur côté annoncé l'évacuation d'Ukraine d'une partie de leur personnel diplomatique et de leur famille. Une attitude qualifiée d'hystérique par Moscou. Joe Biden, le président américain, tiendra ce soir une visioconférence avec des dirigeants européens. En bref, encore à l'étranger, une fusillade dans une université allemande d'Heidelberg, en plein cours, dans un amphithéâtre. Un homme a tué une personne et en a blessé trois autres avant de se suicider. Aucune explication à ce stade sur les motifs de l'auteur. C'est un nouveau petit caillou sur le chemin vers la présidentielle d'Emmanuel Macron. J'annoncerai ma candidature en temps voulu. Réponse aujourd'hui du chef de l'État à une question d'un jeune lycéen. Le président en visite pour deux jours dans la Creuse et la Haute-Vienne au programme Revenus agricoles, déserts médicaux, services publics. Emmanuel Macron qui en a aussi profité pour faire une mise au point sur l'une de ses déclarations controversées il y a 10 jours devant les présidents d'université. Le chef de l'État avait exprimé le souhait d'une réforme systémique des universités et jugé intenable un système d'études supérieures sans aucun prix pour les étudiants. Fallait-il y voir une hausse des frais de scolarité à l'horizon ? Une étudiante inquiète a interpellé aujourd'hui le président.
Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Je m'appelle Océane Jarda, je viens de Châteauroux et je suis venue à Guéret pour exercer mes études à l'UT de Guéret. D'après les dernières informations, vous auriez dit que pour éviter la précarité étudiante, il faudrait rendre les études payantes, ce qui est totalement contradictoire.
Merci beaucoup. Alors, d'abord pour vous remercier pour votre bon sens. Parce qu'en effet, quand on veut se battre contre la précarité étudiante, on n'augmente pas les droits d'inscription à l'université. C'est d'ailleurs pour ça que, contrairement à ce que j'ai pu lire partout dans la presse, je n'ai jamais dit ça. Je me suis exprimé devant la conférence des présidents d'université. Je défie qui que ce soit de retrouver cette phrase qui est sortie partout. Il paraît qu'on est en campagne, et donc il y a apparemment beaucoup de gens qui, dans ces cas-là, sortent des choses et vous font dire le contraire.
Voilà, échange recueilli par Simon Le Baron. Une des nouvelles recrues d'Éric Zemmour dans le viseur de la justice, Guillaume Pelletier, ancien DLR, devenu porte-parole du candidat d'extrême droite, est soupçonné d'avoir utilisé des fonds publics de la région Centre-Val-de-Loire pour rémunérer des collaborateurs sur des missions privées. Le parquet de Blois a ouvert une enquête préliminaire. Là, c'est un livre à paraître qui vient dénoncer les pratiques d'un des plus grands groupes privés de maisons de retraite, le groupe Orpea, accusé de graves défaillances, des personnes âgées délaissés, abandonnés dans leurs excréments, selon des extraits publiés dans le journal Le Monde. Le titre Orpea a aussitôt perdu 16% à la Bourse de Paris. Son cours a été suspendu. On y revient en détail dans le journal de 19h d'Hélène Philly.
Les cadres devraient connaître une année record en matière d'emploi.
Oui, c'est la prévision optimiste de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Après une très bonne année 2021, l'année 2022 s'annonce donc encore meilleure, mais avec de grosses difficultés de recrutement dans certains secteurs.
Oui, le marché de l'emploi cadre est tellement dynamique avec à peine 3,7% de chômage, deux fois moins que la population active, que trois quarts des entreprises anticipent des difficultés de recrutement dans les trois prochains mois, particulièrement en recherche de cadres, les grandes structures de 250 salariés ou plus, et au niveau des secteurs où les intentions d'embauche progressent le plus, explique le directeur général de l'APEC, Gilles Gâteau. On voit bien que la crise sanitaire est passée par là.
Évidemment, le secteur de la santé, de l'industrie pharmaceutique sont vraiment à des niveaux très supérieurs à l'avant-crise. Même l'immobilier, par exemple, parce que les aspirations à bouger, bah, ça se traduit aussi très concrètement dans cette filière. Si on raisonne sur les gros contingents, si je puis dire, là où il y a beaucoup de recrutement cadre, c'est comme toujours l'informatique, l'ingénierie, la R&D, qui sont très demandeurs de compétences aujourd'hui et qui peinent à en trouver.
Dans une situation de quasi plein emploi des cadres, le pouvoir de négociation est forcément du côté des candidats, le salaire, mais aussi, pointe la PEC, les envies de télétravail. Un candidat sur deux se dit réticent à l'idée de rejoindre une entreprise qui n'en propose pas, particulièrement exigeant les jeunes de moins de 35 ans. Et en face, un quart des entreprises ont dû abandonner l'an dernier un recrutement de cadres, faute de candidats.
Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter. Les patrons, eux, font leurs propositions dans la perspective de la présidentielle. Le MEDEF qui plaide pour une baisse massive de la fiscalité sur les entreprises et notamment sur les impôts de production. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, espère un geste supplémentaire de l'État de 35 milliards d'euros sur le prochain quinquennat. En attendant, les prix des carburants, eux, continuent leur ascension. Nouveau record la semaine dernière. 1,65€ le litre de gasoil. Le litre de super samplon 95 était lui à 1,72€ et le samplon 98 à 1,78€. Plus de 6 ni de resto sur présentation d'un test PCR. Il faudra désormais son passe vaccinal. Le nouveau Sésame est entré en vigueur aujourd'hui pour les plus de 16 ans. Il remplace, on le sait, le passe sanitaire avec la possibilité notamment pour les patrons de bars et de restaurants de vérifier l'identité de leurs clients. Illustration en Alsace où certains restaurateurs n'ont pas attendu ce changement pour débusquer les faux passes. C'est un reportage d'Olivier Vogel.
Weyersheim est une petite ville où tout le monde se connaît, ou presque. Alors quand une jeune fille arrive hier soir au milieu d'un groupe d'une dizaine de personnes et présente un faux pass sanitaire, Christophe, le patron du restaurant Bellevue, n'est pas dupe.
On savait qu'elle n'était pas vaccinée. On est restaurateur, on connaît un petit peu tout le monde. C'est une fille du patelin. Puis je lui ai dit, écoute, tu t'appelles tel et tel. Et puis elle a tout de suite commencé un petit peu à nous insulter. Pourquoi tu veux contrôler la carte d'identité? Je vais chercher la carte d'identité. Alors elle dit, bah, écoute, c'est pas encore aujourd'hui, c'est à partir de demain. Et demain, oui, je te demanderai la carte d'identité.
La jeune fille a fini par claquer la porte du restaurant. Et depuis aujourd'hui, Christophe contrôle effectivement les identités dans son établissement.
Nous ne sommes pas des policiers à contrôler les gens, mais si on veut travailler et si on veut retravailler normalement, il faut bien qu'on joue le jeu avec eux, avec l'État. On ne peut rien y faire, on est obligé.
Cela dit, la possibilité de demander une pièce d'identité au client ne va pas changer grand-chose dans les restaurants et autres débits de boissons. C'est en tout cas l'avis de Jacques Chomantowski, président délégué à la restauration de l'UMI du Bas-Rhin, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Il suffit de bon sens pour voir le fraudeur. S'il y a deux fois le même nom dans un groupe, forcément il y en a un qui fraude. S'il y a des dates d'anniversaire qui ne sont pas cohérentes, on voit tout de suite et on peut demander, on nous demande de faire, on fait. Ça change pas énormément.
Jacques Chomantowski mise plutôt sur une sortie de crise sanitaire qu'il espère imminente.
Olivier Vogel de France Bleu, Alsace, c'est sans doute la manifestation anti-vax la plus importante en Europe. 50 000 personnes dans les rues de Bruxelles hier, un rassemblement qui a dégénéré en violence. 239 personnes interpellées, 11 personnes dont 3 Français placées en garde à vue.
La France au chevet des îles Tonga.
Les îles frappées il y a près de 10 jours par la plus violente éruption volcanique depuis des décennies. Les Tonga toujours en partie coupées du monde et qui dépendent en grande partie de l'extérieur. L'aide internationale s'organise depuis quelques jours grâce à l'Australie, la Nouvelle-Zélande et donc à la France. Bonsoir Yann Gallic, la France qui vient d'envoyer un navire depuis la Nouvelle-Calédonie.
Ce navire militaire a quitté Nouméa avec à son bord 10 tonnes de matériel d'urgence, des tentes, des lampes solaires, des outils, mais aussi des rations alimentaires et des bouteilles d'eau. Sur les îles Tonga, des milliers d'habitants n'ont actuellement plus d'eau potable car les réserves ont été contaminées par les cendres toxiques du volcan. Sandrine Buffetot est la présidente de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie.
À l'heure actuelle, il y a des bateaux qui sont acheminés là-bas, qui sont capables de fabriquer de l'eau potable. On a des kits hygiène, aussi bien adultes qu'enfants, bébés, avec du dentifrice, du savon, des serviettes et tout ce qu'il faut aussi comme produits hygiéniques pour les femmes, pour les hommes, qui vont leur permettre justement de faire leur toilette et de pouvoir vraiment rester dans des règles d'hygiène qui permettent de ne pas attraper de maladies.
De l'aide humanitaire sera également acheminée par avion dans les prochains jours. L'armée française va effectuer un vol de reconnaissance au-dessus des Tonga pour mieux évaluer l'étendue des dégâts sur les îles encore isolées.
On n'a aucun moyen de communication avec les Tonga. Les lignes de téléphone ont été coupées. Les lignes sous-marines, tout ce qui est fibre optique a été coupé. Donc, c'est très difficile depuis la semaine dernière de communiquer avec eux. La situation est très difficile là-bas et il y a très peu d'impact au niveau humain. Mais au niveau matériel, les îles ont été fortement touchées.
Et ce week-end, un premier bateau avait déjà quitté la Polynésie française pour apporter 40 tonnes d'aide matérielle. En revanche, il n'y aura pas de renfort humain envoyé aux Tonga car les autorités locales redoutent la propagation du Covid dans cet archipel qui vit pour l'instant à l'abri du virus avec un seul cas recensé depuis le début de la pandémie.
Voilà, l'aide française aux îles Tonga, c'était avec Yann Gallic. Bonne soirée Yann.
Bonne soirée.
À tout à l'heure Fabienne.
Merci Sébastien. À tout de suite. Oui, dans Un jour dans le monde, vous nous parlerez dans Sous les radars notamment de la Tanzanie qui est en train de devenir une sorte de pays refuge.
Exactement.
Pour les non-vaccinés. Ce soir, nous allons en Italie qui vote pour élire son président de la République, vote des grands électeurs, mais processus très très politique avec beaucoup plus d'enjeux que ce qu'on imagine. On en parlera ensemble. Et puis le téléphone sonne. Tiens, je vous le remets en tête à partir de 19h20. Vous pouvez commencer à téléphoner comme très régulièrement. France Inter est en partenariat avec Ipsos Sopra Steria autour des grands enjeux et des grandes préoccupations qui sont les vôtres à 76 jours du premier tour de la présidentielle. Sans beaucoup de surprises, le pouvoir d'achat en tête. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Pouvoir d'achat, santé, chômage, environnement, retraite. À vous de nous dire, à vous de nous expliquer avec vos remarques et vos questions. Nos invités, bien sûr, au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Un temps contrasté, voilà ce que vous nous promettez pour demain.
Oui, bonsoir à tous. Un réveil gris en effet. Alors sur les régions allant de la Bretagne vers le nord, la région parisienne, l'Orléanais et l'Alsace, les brouillards seront parfois givrants, donc prudence sur les routes. Même programme du Val-de-Saône au Lyonnais et du nord de l'Aquitaine vers la région toulousaine et le Roussillon. Des nuages aussi du côté du Var et puis partout d'ailleurs, ce sera un beau soleil avec des gelées quasiment partout.
Et l'après-midi restera gris au nord en tout cas.
Très encombré de la Bretagne et du Val-de-Loire jusqu'aux frontières du nord. Des nuages bâtonnasses également vers la Garonne ou vers le Val-de-Saône, mais du soleil ailleurs. Et puis il fera 3 petits degrés à Cambrai, Caen, Metz, Dijon, 4 degrés à Rennes, Paris et Châteauroux, 8 à Nantes, à Nevers, à Grenoble. On ira jusqu'à 10 degrés à Clermont-Ferrand, 13 à Biarritz, à Bastia et 14 à Toulon.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.